pour investir, le coffre-fort.
Coffre-fort de grand luxe. Vous savez, avec les présentoirs en velours, avec... On va parler de l'investissement dans les bijoux anciens. Et investir dans les bijoux, ça demande du savoir-faire. Si vous n'en avez pas, ça demande de consulter des spécialistes. Et on en a deux sur le plateau aujourd'hui. Pierre-Jean Galadima de Sapiens, que vous avez l'habitude...
Sous les mains de Jean.
Sous les mains de Jean, qu'est-ce que j'ai marqué?
Non, c'est pas
sous les mains de Jean Galadima. Laissez tomber, ça c'est, faut que je me reconcentre. Et Virginie David, vous êtes spécialiste des bijoux et gémologue.
Bonjour.
Diplômée, bonjour. Chez Rési, c'est pas souvent qu'on a des gens de la spécialité sur le plateau, donc merci d'être là. Parce qu'investir dans les bijoux anciens, c'est pas non plus si intuitif. Il faut s'y connaître un petit peu. Quels sont les principaux éléments de tendance de cet investissement dans les bijoux, dans cette connaissance du marché aussi et cette volonté de s'y exposer? Alors, les mains de Jean.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on sait que de tout temps, de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne, en passant par la Renaissance, tout le monde a toujours investi dans les pierres précieuses. Ce que l'on voit, nous, au niveau de nos clients du Multifamily Office Sapiens, c'est qu'on voit des clients de plus en plus jeunes. Que ce soit des entrepreneurs qui ont fait un cash-out partiel ou total, que ce soit également de jeunes héritiers. Il y a un peu cette tendance qu'on appelle du luxury investing, de l'investissement dans le luxe, qui peut être soit en fait une recherche d'investissement un peu statutaire, soit effectivement un investissement, une diversification dans leur patrimoine.
Et les... c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a quand même quelque chose de contre-intuitif là-dedans. On va parler très trivialement. On se dit, mais les pierres précieuses, c'est des trucs de personnes âgées. Non,
ça
les jeunes s'y mettent. Ils n'ont pas forcément envie d'une Rolex. Ils ont envie d'investir dans des pierres. Et ça, effectivement,
il y a un historique, il y a entre guillemets une mode sur ce sujet, et pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est un actif tangible qui peut être facilement transporté en cas de crise. C'est un actif aussi qui a connu une forte valorisation ces dernières années, puisque l'or a quasiment fait 175% depuis les 5 dernières années. Virginie en reparlera, sa filière du Cachemire a fait x4 de valorisation entre 2013 et 2024. Et oui. Donc, il y a pour certains patrimoines une volonté aussi de chercher des actifs riches en décorrélation, parce que c'est un actif qui est fortement décorrélé des marchés financiers, et donc une volonté d'investir, et un marché qui est en pleine croissance, puisque on parle en 2024 d'environ 420 milliards, on projette en 2033 près de 550 milliards d'euros à l'échelle globale sur ce marché, et avec également de nouvelles géographies, notamment asiatiques, qui se développent sur ce marché, donc une volonté pour certains de nos investisseurs de s'y exposer. Mais attention, marché avec une grosse asymétrie d'informations, marché très complexe, d'où l'intérêt de faire appel à des spécialistes.
Oui, c'est super complexe. Virginie David, donc vous êtes spécialiste, vous êtes gémologue. C'est vrai qu'en plus, quand on se dit, allez, investir dans les pierres précieuses, dans les bijoux, c'est un peu comme investir en bourse ou sur les produits financiers. Il y a une multitude de variétés de supports, finalement. Alors, c'est vrai qu'on part du diamant... brut, incolore, etc., pour aller vers des pierres qui ont une multitude de spécificités, une multitude de valeurs, une multitude de rendements aussi.
Oui, alors pour investir dans les bijoux et les gemmes, il faut déjà privilégier la rareté. Et la rareté, qu'est-ce que c'est? Alors pour le diamant incolore, aujourd'hui sur le marché, ce qui est valorisé, ce sont les diamants ronds taille brillant qui vont être triple X, c'est-à-dire trois fois excellent en termes de poli, de symétrie, de proportion. Et ce sont des diamants qui ne sont pas fluorescents. Après, il y a aussi le marché des diamants de couleur. Et là, ce qui va être rare, c'est tout simplement leur couleur. Puisque moins d'1% des diamants sont naturellement colorés. Les rouges sont les plus rares, les violets, les verts, les bleus, les jaunes. Et là, on va regarder l'intensité de la couleur et on va chercher ce qui est fancy, vivid. Après, il y a aussi les pierres de couleur qui sont importantes dans l'investissement. Et là, pour les pierres de couleur, on va regarder la couleur, l'homogénéité. On va regarder aussi l'intensité de la couleur. Et également, on va regarder si la couleur est pure. On va toujours préférer, par exemple, un rouge pur à un rouge violacé. Mmh. Et pour les pierres de couleur, ce qui est important aussi, c'est la provenance géographique. Mmh. Souleymane Jean a parlé du saphir du Cachemire. C'était une mine qui était exploitée autour de 1880 en Inde. Et ces saphirs sont intenses en couleur, avec une matière très veloutée, très belle. Mmh. Et ils vont partir aujourd'hui aux enchères autour de 50 000, 60 000 euros le carat. un carat égale 0,20 grammes.
Oui.
Les rubis de Mogok aussi. Mogok est vraiment la source historique. Donc, on va en retrouver aussi aux enchères qui vont être très valorisées. Et aujourd'hui, si on trouve des bijoux, enfin des rubis sur des bijoux neufs, ça va être plutôt les rubis du Mozambique qui sont très beaux. Et ça, c'est lié au contexte géopolitique du Myanmar. Et puis, les émeraudes de Colombie qui sont connues. On les exploite depuis 2500 ans. Elles sont commercialisées depuis le XVIe siècle et elles sont aussi donc très valorisées sur le marché. Mais il y a les gemmes, il y a aussi les bijoux.
Oui.
Et les bijoux, on peut les porter. C'est vraiment un actif qui est tangible. On peut avoir le plaisir de les porter. Pour investir, les collectionneurs vont plutôt privilégier des noms qui sont incontournables, comme aujourd'hui Suzanne Belperron. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Suzanne Belperron, elle ne signait pas ses bijoux. Elle disait que son style était sa signature.
Donc, il faut les reconnaître.
D'autant plus, il faut faire appel à un professionnel qui a notamment accès aux archives pour pouvoir attester de cette création. Et puis, je pense à d'autres noms, la Maison Jarre, Sterlet, Lalique, Templier, également Vendôme, qui vont aussi être des noms qui vont être très prisés sur le marché. Je pense à René Boivin également. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi les bijoux qui sont iconiques. Alors, je pense particulièrement à la collection Alhambra de la maison Van Cleef & Arpels, qui est très demandée. Les bijoux vintage d'Alhambra, ils sont beaucoup plus valorisés en seconde main, finalement, qu'en prix neuf, puisqu'il y a cet effet de rareté. La maison Cartier aussi va très peu décotée. Sur le marché,
la marque est importante.
Ce sont des bons investissements. Et alors là, le conseil, c'est surtout si on va acheter et vendre, c'est vendre avec l'écrin, le certificat de la maison également, et si possible, la facture, ce qui est mieux.
Et effectivement, faire confiance à des spécialistes et des gens du métier. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Souleymane Jean Galadima de Sapiens, Virginie David, gémologue, pour nous avoir intéressé à ce marché des pierres précieuses et des bijoux. Il faudra que vous reveniez tous les deux.
Avec grand plaisir.
Pour qu'on fasse un point régulier là-dessus.